Donc, bonjour et bienvenue au podcast spécial édition en l'honneur du lancement du CEISM, donc le Centre d'études et d'intervention en santé mentale. L'épisode d'aujourd'hui porte sur les effets de la dépendance à la drogue sur le cerveau et le comportement. Mon nom est Claudia et je suis en compagnie de Léonie qui, au fil des années, a développé une expertise au sujet des substances psychoactives. D'abord, Léonie, il existe plusieurs types de drogues. Pensons juste au cannabis ou encore à la cocaïne. Qu'est-ce qui les distingue? Est-ce que c'est vraiment leur effet respectif sur le cerveau?
Oui, entre autres. En fait, là, une substance là, psychoactive, ça va agir sur notre cerveau. Puis ça va avoir pour effet de modifier les sensations, de procurer le plaisir, là, etc. Donc, l'effet engendré là, peut être différent pour chacune des classes de substances psychoactives parce qu'elles ont leur propre action. Les psychostimulants, là, par exemple les amphétamines, la cocaïne et la nicotine, vont stimuler le système nerveux central en accélérant son fonctionnement. À l'inverse, les dépresseurs comme l'alcool, les benzodiazépines et les barbituriques vont avoir, eux, pour effet de ralentir l'activité du système nerveux central.
OK, je comprends. Donc, c'est ce qui explique qu'une personne qui consomme de la cocaïne, bien, elle va être très énergisée et stimulée, mais à l'inverse, là, une personne intoxiquée à l'alcool, elle va être au ralenti, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'effet ressenti là, dépend du mécanisme d'action de la drogue sur le système nerveux central, donc sur notre cerveau. Est-ce que tu savais aussi que l'effet peut varier d'une personne à l'autre? Par exemple, pour certains, le fait de fumer du cannabis va procurer un effet calmant. Mais pour d'autres, ça peut être la source là, d'une expérience déplaisante, ce qu'on appelle un bad trip. C'est en fonction de cet effet ressenti qu'il y aura ensuite une modification du comportement. C'est-à-dire que si l'effet procure du plaisir ou encore un sentiment de bien-être, on va vouloir répéter l'action. Mais que si là, c'est plus déplaisant, on aura tendance là, à cesser le comportement.
Ah, bien, ça fait vraiment beaucoup de sens. C'est vrai qu'en règle générale, si l'expérience nous procure une gratification qui est immédiate, bon, on va avoir le désir de la répéter à nouveau. D'ailleurs, je me demande si la sensation de plaisir temporaire que va engendrer la drogue, bien, ça pourrait être lié à la dopamine. Je sais qu'on en libère particulièrement quand on vit quelque chose d'agréable, par exemple quand moi je vais manger une poutine. Est-ce que ça s'applique aussi dans le contexte des drogues?
Bien, c'est un très bon point, Claudia. Dans le fond, là, la dopamine, c'est un neurotransmetteur dans le système nerveux. C'est donc là, une substance chimique qui permet la communication entre les neurones. Donc, les actions là, de la dopamine sont médiées par différents récepteurs. On peut voir un peu ça comme le principe là, d'une clé puis d'une serrure. Donc, la dopamine, le neurotransmetteur, est la clé, puis son récepteur là, est la serrure. Donc, lorsque la clé sera fixée au récepteur, la communication entre les neurones sera entamée. Donc, la dopamine a différentes là, fonctions dans notre organisme. Par exemple, là, elle peut jouer un rôle au niveau du mouvement, mais aussi au niveau de la récompense.
OK. Donc, quand on pense à la consommation, ça serait plus en lien avec sa fonction de récompense. Puis, c'est à quel endroit du cerveau que la dopamine joue sa fonction en ce qui a trait à la récompense, justement?
En fait, il y a un ensemble de structures dans le cerveau qu'on nomme le système de la récompense, qui, lui, est responsable d'encourager les comportements essentiels à notre survie, comme par exemple de manger, de boire et de se reproduire. Si on simplifie, là, le circuit neuronal de la récompense, il va signaler les sensations agréables et celles désagréables.
Donc, si je comprends bien, quand j'ai faim, c'est le système neuronal de la récompense qui m'indique que je dois manger, puisque c'est essentiel à ma survie, et ça en provoquant une sensation qui est désagréable. Est-ce que c'est aussi lui, ce système-là, qui va me pousser à manger ma fameuse poutine pour faire dissiper cette sensation-là?
Oui, en fait, là, quand ton organisme manque de nourriture, l'activité du circuit de la récompense diminue sous la normale et tu vas ressentir un inconfort, tu as faim. Ça va donc là, t'inciter à manger, dans ton cas, de la poutine. Lorsque tu vas faire ça, cette action va venir stimuler le circuit neuronal de la récompense en y libérant de la dopamine. Puisque la dopamine est libérée, il y aura donc une sensation de plaisir.
OK, donc ça explique pourquoi j'aime autant la poutine. Je comprends vraiment mieux maintenant. Et en fait, là, par rapport aux drogues, c'est quoi l'effet des drogues sur ce système neuronal de la récompense?
Les drogues vont venir chambouler ce système de la récompense. Donc, plus la personne va consommer la drogue à répétition, plus ce système va associer la prise de la substance à un besoin essentiel à la survie. Donc, quand la personne n'en consommera pas, elle va ressentir une sensation qu'on peut comparer à la faim ou encore là, à la soif.
OK, donc ça, c'est ce qu'on appelle les cravings pour la drogue. Et puis, est-ce que c'est valable pour toutes les drogues?
Oui, donc toutes les substances là, susceptibles d'engendrer une dépendance vont augmenter la dopamine dans le circuit de la récompense. Donc, même s'ils utilisent là, différents mécanismes, les drogues là, vont avoir une voie finale là, qui est presque commune.
Là. OK, puis il va donc avoir beaucoup plus de dopamine dans notre cerveau, ce qui explique l'effet euphorisant ou de grand plaisir qu'on va pouvoir ressentir en consommant. Et puis, ce que je sais de la drogue, c'est que plus on répète la consommation d'une substance, plus il va en falloir une grande quantité pour avoir le même effet euphorisant. À quoi c'est attribuable, ça?
En fait, là, tantôt, on parlait de notre clé qui est la dopamine et de la serrure, son récepteur. Donc, le récepteur de la dopamine, donc la serrure, va s'habituer à la présence constamment plus grande de la dopamine et va se modifier. Il sera le moins sensible à la présence de la dopamine.
OK, donc ça veut dire que la drogue apporte des modifications à long terme à notre cerveau.
Oui, donc il y aura moins de plaisir et de motivation le ressenti au long terme dû à la désensibilisation du récepteur. On appelle là, ce phénomène la tolérance.
Est-ce que c'est ce qui explique que les actions comme de manger puis d'interagir avec l'entourage qui, auparavant, là, procuraient beaucoup de plaisir, mais elles seront plus nécessairement aussi satisfaisantes dans la vie de quelqu'un qui consomme beaucoup?
Exact. Dans le fond, c'est le mécanisme qui permet d'expliquer pourquoi les priorités dans la vie d'une personne changent la plupart du temps avec une grande consommation au quotidien. Par contre, il est important là, de savoir que cette modification de notre cerveau et donc de nos comportements est réversible avec l'abstinence. Donc justement, nous accueillons une personne ayant vécu ce type de problématique qui aujourd'hui est abstinent depuis maintenant 5 ans et 4 mois. Donc bonjour Richard, pouvez-vous nous parler là, de votre histoire et des répercussions que la consommation de substances a eues sur votre vie et vos comportements?
Bien, d'abord bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité, merci de faire confiance. Moi d'abord et avant tout, je me définis comme étant un alcoolique. C'est vraiment une maladie. Incurable et surtout une maladie qui est progressive. Mais pour le moment, il faut savoir que l'alcoolisme, c'est une maladie qui affecte toutes les dimensions de la vie d'un individu qui souffre de cette maladie-là. Là. Beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Au niveau familial, c'était un divorce. Tout aurait été plus facile, je crois, pour l'éducation avec les enfants. Et puis, vers la fin, là, c'est une question de santé, hein. C'est primordial, ça affecte la santé. On dit que, je peux me tromper, là, mais que l'alcoolisme comme tel cause 300 maladies, hein. Souvent, l'alcool, c'est pas ça qui va tuer comme tel, mais c'est les conséquences.
Et comment es-tu arrivé à arrêter de consommer?
Oui, j'en suis très fier. Je dirais sommairement, Il faut d'abord admettre ou reconnaître qu'on a un problème. C'est la première étape. Ça a été dans mon cas là, la première étape fondamentale. Par la suite, c'est l'accepter. Il faut non seulement regarder, mais l'accepter. Il faut qu'il y ait une acceptation que j'ai cette maladie-là et que je dois vivre avec. Alors voilà, ça a été... conséquemment à ça, lorsqu'on prend conscience de notre maladie, on en devient responsable. À quelque part, on en devient responsable. Et là, notre responsabilité, ben, c'est de se prendre en main et d'arrêter de consommer. Parce que le médicament, le seul médicament qu'on connaît sans être un médicament, c'est l'abstinence complète. C'est l'abstinence complète. Moi, c'était les Alcooliques Anonymes. C'est comme mouvement d'entraide, c'est le mouvement qui m'a le plus aidé. C'est un mouvement qui est universel, qui est accessible. Quand tu vas vraiment être tanné, là, tu vas arrêter, tu vas t'écœurer. Moi, j'ai jamais manqué d'argent. La raison, c'était parce que je voulais pas manquer d'argent pour ma consommation. C'est ça. Tout est en fonction de l'alcool. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, puis tu dois t'assurer que tu n'en manques pas, que tu en as demain au moment que tu voudras. On a vraiment des mauvaises habitudes. On fabule, on peut imaginer des choses. On pense que tout le monde nous en veut. On est des éternels ados, là, insécures. Ah, ouais. Puis avec l'alcool, ça les multiplie. Déjà, tu as des difficultés à gérer tes émotions. Alors, imagine si tu prends l'alcool, ben là, tu croches, là. Tu croches.
Ouais. Merci, Richard, pour ce partage. Maintenant, on va accueillir le docteur Claude Rouillard, professeur au département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval, qui est spécialisé, entre autres, en toxicomanie. Donc, bonjour, docteur Rouillard.
Donc, nous aimerions savoir, à quel moment peut-on dire que quelqu'un est devenu dépendant?
C'est une des problématiques les plus importantes, c'est-à-dire qu'il est très difficile de déterminer quand une personne va devenir dépendante. Au début, la personne va consommer sans aucun ou peu de problèmes associés, puis au fur et à mesure que elle va évoluer dans sa consommation, les problèmes vont augmenter. Les problèmes associés à la consommation vont augmenter. Et de là va entrer en jeu la dépendance qui, au début, peut être faible. Par la suite, elle peut devenir plus importante. Et les signes de s'en apercevoir, c'est que la personne... En fait, la façon la plus simple de dire qu'une personne pourrait s'en apercevoir, c'est qu'elle va consommer malgré qu'elle a des conséquences négatives à sa consommation. Au début, elle va les nier, mais par la suite, elle les connaît, mais elle les cache encore. Donc, c'est très, très difficile de savoir exactement lorsque la personne est devenue dépendante, mais au fur et à mesure que les signes s'aggravent, ben, on voit que la dépendance prend de plus en plus d'importance.
Également, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui distingue la dépendance physique de la dépendance psychologique?
OK. La dépendance physique et la dépendance psychologique sont deux éléments assez différents. On pourrait même dire complètement différents. Allons-y avec la première, la dépendance psychologique, c'est-à-dire qu'à mesure que l'individu va continuer sa consommation de la substance, de plus en plus, il va avoir envie de consommer et consommer, comme on le disait auparavant, consommer en dépit de conséquences. Donc ça, c'est la dépendance psychologique, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas s'empêcher de consommer la substance, il en a tellement envie qu'il accepte les conséquences de sa consommation, même si c'est des fois une conséquence négative fort importante. Pour ce qui est de la dépendance physique, c'est tout simplement une adaptation de l'organisme à la présence de la drogue. Plus que on avance dans la consommation, habituellement, plus les fréquences de consommation sont élevées et plus les quantités sont élevées. Donc, l'organisme a une certaine réaction à ces... elle va s'adapter à la présence de la drogue. Puis lorsque la drogue n'est pas là, bien, il va avoir des symptômes de sevrage. En fait, les symptômes de sevrage sont l'expression de du fait que la dépendance physique s'est installée. Donc, au fur et à mesure que la personne avance, consomme de plus en plus souvent, de plus en plus grande quantité, puis quand il n'a pas consommé, bien, il y a des symptômes de sevrage. C'est ça, essentiellement, la dépendance physique. C'est les symptômes de sevrage qui vont être donnés par la drogue. Et ça peut être très important parce que ça peut ramener... Les symptômes de sevrage peuvent être tellement importants que ça peut ramener la personne dans sa consommation.
Merci, Dr. Rouillard.
Donc, maintenant, parlons un peu plus de l'intervention et des ressources. Donc, il faut savoir là, que plusieurs options s'offrent à une personne aux prises avec une dépendance à une substance et qu'aucun traitement ne convient à tous, car les besoins là, de chacun ne sont pas les mêmes.
J'imagine que ça varie aussi en fonction de la sévérité de la dépendance, mais aussi du type de substance qui est consommée. Le choix du traitement adéquat, est-ce qu'il prend aussi en considération la présence d'un filet social ou encore là, du type de soutien qui est offert par l'entourage?
En effet, mais il ne faut pas oublier là, de considérer la motivation qu'a la personne à changer. En fait, parmi les traitements possibles, il existe des démarches axées sur l'initiative personnelle, donc la motivation. Parmi celles-là, on retrouve les groupes d'entraide entre pairs, comme les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. Ces groupes soutiennent les personnes qui ont le désir de modifier leur consommation d'alcool et de drogue.
Donc là, ici, Léonie, tu me parles de quelqu'un qui est motivé. Mais disons là, que la personne n'est pas prête à modifier sa consommation. Est-ce que c'est quand même possible de l'aider?
Oui, donc certains là, programmes de traitement ont une approche axée sur la réduction des méfaits. Parmi les stratégies de réduction des méfaits, on peut faire connaître aux usagers des moyens plus sécuritaires de consommer des substances en fournissant des seringues qui sont stériles, par exemple. On peut aussi tenter là, de remplacer une drogue par une autre qui est un peu plus sécuritaire, comme on pourrait remplacer l'héroïne par la méthadone.
OK, donc si je comprends bien, c'est pas nécessairement un traitement à proprement dit, mais plutôt un moyen de prévenir des conséquences qui sont là, très importantes. Et maintenant, disons que la personne souhaite s'engager activement dans son processus de traitement. Quelles vont être les options qui vont s'offrir à elle?
Donc, la personne peut avoir recours à des services de gestion non médicaux, comme une cure de désintox en établissement. La personne peut aussi recourir aux traitements de courte et de longue durée en établissement et au centre de réadaptation pour les personnes dépendantes. Finalement, un autre type de traitement est la thérapie individuelle, familiale, de couple ou de groupe. Ultimement, la thérapie vise à étudier les pensées et les émotions, les habitants et pouvant influencer leur comportement et leur dépendance.
Mm-hmm. Donc, ce que je retire de notre discussion ici, c'est que le traitement de la dépendance, ça ne relève pas uniquement d'un seul type de profession puis qu'il y a plusieurs formes d'aide externe qui peuvent être conjuguées entre elles. C'est plutôt multidisciplinaire parce que les différents intervenants, disons psychosociaux et ceux en toxicomanie, vont travailler de pair avec les médecins puis aussi les groupes de soutien qui sont dispensés dans la collectivité.
Donc, si jamais là, vous-même ou quelqu'un que vous connaissez semble souffrir de toxicomanie, plusieurs ressources peuvent vous aider à traverser cette épreuve. Des ressources intéressantes pour différents stades de la problématique le sont dans la description du balado. La consommation de substances peut entraîner là, de graves conséquences rapidement, donc n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin.
Ceci conclut donc l'épisode spécial sur l'effet de la dépendance aux substances sur le cerveau et les comportements. On tenait à vous remercier pour votre écoute et surtout à remercier le CISM, Dr Rouillard et Richard pour avoir rendu ce projet possible.
Merci.